Merci beaucoup. En fait, je vais souhaiter mes vœux au travers de cette prédication. C'est une introduction à la série. La série, c'est plus que des prédications qui se passent le dimanche. Vous l'aurez observé depuis septembre, à chaque fois qu'on lance une série, ça s'implique dans nos vies relationnelles, ça s'implique dans nos activités. On a parlé de l'appartenance et ce qui se passe en semaine est inclus dans l'ensemble de ce qu'on veut vivre. Donc là, c'est l'offensive de prière, et je trouve que Toine l'a super bien amené. Le cadre est bien posé, mais je vais vous lire une définition qui dit simplement action stratégique d'une force armée destinée à imposer à l'ennemi sa volonté, à le chasser de ses positions et à le détruire. C'est assez guerrier, offensive. Et en même temps, c'est associé à la prière. Et la prière, il s'agit de quoi? De relations. Ce dont on parle. Quand on dit prière, il s'agit de défendre et de développer une relation profonde avec Dieu. Alors, quelle association, quel sens ça a ces deux choses ensemble? Ce matin, on a entendu que le Seigneur nous appelle à être à ses pieds. Et je vais vous dire, le premier de nos ennemis, vous savez qui c'est? C'est nous-mêmes. Le combat qu'on va mener, c'est contre nos mauvaises habitudes qui nous empêchent de développer quoi? L'intimité avec Dieu. Et c'est un combat. C'est un combat qui est rude. Pourquoi? Parce que quand il s'est inscrit au-dedans de nous de mauvaises habitudes, liées très souvent à une mauvaise conception de Dieu, de la relation avec Dieu, de ce que Dieu pense sur nous. Et ça, si c'est pas touché, on va pas inscrire. Et c'est pour ça que c'est un combat. D'abord envers nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises conceptions de Dieu, qui est un père. Et pour autant, on croit, on a des filtres, malgré nous. Si on nous demandait de réciter notre catéchisme, de réciter ce que nous croyons de Dieu, on saura dire de bonnes choses. Il est bon, il est fidèle, il est puissant, mais on va le dire. L'enjeu, et on va le voir ce matin, c'est quand on est éprouvé, quand on vient de pécher, quand la relation avec Dieu est entamée, pour la réconcilier, si nous ne savons pas qui est véritablement Dieu, on va installer une distance entre lui et nous. Et ça prend un combat, pas contre simplement, vous savez, l'ennemi, il y en a un, on va le mener ce combat, mais d'abord contre nous-mêmes, les mensonges qui sont au-dedans de nous. On va aller trouver ce qui fait que quand, et ce qui sort de ce que nous croyons de Dieu, c'est quand on a péché ou quand on est éprouvé. Le moment où il disparaît, on ne le voit plus, on a l'impression qu'il nous a oublié, le moment où nous péchons, là, il y a quelque chose qui sort dans nos pensées, dans nos cœurs, et il faut le combattre. On va livrer le combat contre ce qui est faux, parce que c'est faux. Très souvent, ce qui monte à ce moment-là, et c'est une bonne occasion. Ah, ok, tu as péché, très bien. Ah, ok, tu es éprouvé, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui monte au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Et on va confronter cela avec foi. On va le confronter avec foi. Paul, il ose dire, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais ces armes sont contre quoi? Les mauvaises pensées. Les forteresses. Et ces mauvaises pensées disent quelque chose sur nous, lisent les circonstances que nous traversons et disent quelque chose sur Dieu. Quand c'est des mensonges, ça prend un courage, de la combativité, ça apprend à utiliser les armes de Dieu pour confronter ces mensonges. Et quand on est libre de ces mensonges, on traverse même notre péché, notre pratique du péché, même nos épreuves, mais radicalement différemment, dans la victoire. Et cette victoire, elle n'est pas en nous-mêmes, mais elle est dans la grâce de Dieu. Amen. Et dans l'Ancien Testament, très souvent, quand le peuple de Dieu était confronté à une guerre, Toine en faisait mention, la stratégie de Dieu, elle est quand même particulière. Très souvent, elle disait, allez au combat, mais utilisez quoi? La relation avec Dieu. Louez-moi. C'est pour ça que c'est un combat. Vous voyez l'ennemi, vous voyez l'épreuve, vous voyez votre péché, vous voyez l'état de défi, et Dieu dit, ok, choisis d'abord de venir vers moi. Choisis de m'adorer. Mets-moi au centre du problème. Rappelle ma bonté. Et vous savez, le peuple de Dieu, il était confronté avec des ennemis de toutes sortes. De toutes sortes. Ça pouvait être la peste, ça pouvait être des ennemis physiques. Et Dieu dit, prenez ceux qui louent Dieu et que le peuple, dans son ensemble, aille au devant de l'ennemi et chante simplement, Dieu est bon. Et puis, Dieu est bon. Sa bonté durera toujours.
Alléluia. Sa bonté durera toujours. Alléluia. Sa bonté durera toujours. Alléluia. Sa bonté durera toujours. Alléluia.
Un refrain. Louez l'Éternel. Il y a des gens qui disaient, louez l'Éternel. Et tout le peuple disait, car sa bonté dure à... Alors, je vais le faire, vous allez répondre, d'accord ? Louez l'Éternel ! Ok, c'est pas mal. Mais est-ce que vous croyez que l'ennemi, là, il va se dire, oulala, ils ont l'impression vraiment d'y croire, là. L'épreuve, quand il te voit, car sa bonté durera toujours, est-ce que tu y crois vraiment ? Louez l'Éternel ! Ça vient, ça vient. Vous êtes en train de vous chauffer, là, hein ? Offensive de prière. Vous savez ? Moi, dans votre cas, j'entends ça, louer l'Éternel, je me lève, je saute et je dis, Alléluia, sa bonté durera toujours. Louer l'Éternel. Oh, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Offensive de prière. Proclamer au milieu de ce que tu vis que Dieu est bon. Écoutez-moi, le croire. Tout le reste dit l'inverse. Très souvent, quand Dieu venait trouver le peuple d'Israël, ils tremblaient, ils avaient peur, et puis ils disaient, mais Seigneur, comment on va faire? C'est difficile, mais, oh, mais c'est dur. Et puis, c'est des choses-là, nous le vivons. Le Seigneur dit, écoute-moi, écoute-moi. Au milieu de ce, ça y est. Non. Lynn. Lynn, tout à l'heure, elle nous a témoigné qu'il fallait qu'elle sorte, etc. Dieu lui dit, prends du temps devant moi et les ta manière de lire les circonstances vont changer. Revenir au Seigneur, c'est un combat. Marthe-Marie, c'est un combat. Si tu ne gagnes pas celui-ci, tu ne verras pas la victoire. Tu vas y aller, de temps en temps, tu vas dire, au nom de Jésus, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une réelle connexion. Avec quoi ? Un Dieu d'amour. Sa bonté durera toujours. Sa bonté, son amour durera toujours. Je le crois. Et au milieu de l'épreuve, je viens célébrer Dieu. Louez l'Éternel ! Louez l'Éternel ! Louez l'Éternel ! C'est un cri, c'est un refrain dans l'Ancien Testament qui rappelle, qui remet au centre que c'est la communion, ce que nous connaissons de Dieu, réellement, qui fait une différence. Dans les combats, les vrais, hein, dans les vraies difficultés, c'est ce que nous connaissons de Dieu qui fait une différence. Alors, dans la parole, Jésus lui-même parle de la prière. Imaginez, Jésus lui-même enseigne sur la prière. Dieu vient nous enseigner de dire, mais quand vous allez prier, il va se passer des choses. Et il utilise deux paraboles, trois paraboles, qui me touchent et qui parlent de combat. C'est curieux, mais c'est comme ça. Il nous avertit que c'est comme ça. C'est important dans ce début de série de savoir que la prière est un combat, mais que la clé, c'est de connaître Dieu et de traverser les épreuves. Première parabole, on est dans Luc 11. Tu peux me mettre la slide, s'il te plaît. Luc 11, un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus leur dit, et je ne mets pas la suite, parce que nous le connaissons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on va le dire tout à l'heure. Ils veulent prier, et Jésus leur dit, ok, je vais vous donner un modèle, le voici. Et dans cette série, à chaque culte, on confessera le Notre Père. Mais ce que je veux souligner ce matin, c'est ce qu'il dit après. Au verset 5, il dit, Jésus leur dit encore, après avoir donc cité le Notre Père, il dit, supposons ceci, vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, mon ami, prête-moi trois pains. Et je vais vous raconter l'histoire. Cet ami, c'est au milieu de la nuit, il dort et il dit, non, ne m'embête pas, je suis dans mon lit, mes enfants sont là. À l'époque, ils dormaient tous dans une même pièce, les animaux étaient au fond. Il y avait une grande porte très compliquée à ouvrir, ça faisait beaucoup de bruit. Donc il dit, je suis couché, je ne vais pas me lever, si je t'ouvre la porte, toute la maison va être réveillée, les animaux vont se mettre à aboyer. Non, je suis au fond de mon lit, t'es mon ami, mais je bouge pas. Et il persévère à tel point que Jésus dit, il va se lever, non pas parce que c'est son ami, il va se lever parce qu'il en a marre. Et il se lève, il lui ouvre, il lui donne ses trois pains. Et il dit, écoutez, si ce monsieur s'est levé, cet ami s'est levé, pas parce que c'était un ami, parce qu'il était agacé, faites de même envers Dieu. Et il dit, supposez, vous êtes parent, votre enfant, c'est Chantal, c'est ça? Imagine tes enfants viennent te demander du pain, la Bible dit. Tu ne vas jamais leur donner une pierre. Ou alors c'est une farce, une très mauvaise farce. Tu ne vas pas leur donner un serpent, tu vas leur donner du pain. Et Jésus dit, et très souvent, les paraboles, c'est ce qu'on appelle des hyperboles même. C'est exagéré. C'est très exagéré. Nous avons l'impression que Dieu, de temps en temps, quand on lui demande du pain, il nous donne une pierre. Ou il n'entend pas. Ou il ne veut pas le donner. Nous avons l'impression, les mensonges inscrits au-dedans de nous en rapport à la prière. Dieu dit, je suis un père. Vous, vous êtes mauvais, vous êtes ok, vous essayez d'être bon, mais ce n'est pas parfait. Moi, je suis bon et parfait. Je vais vous donner de bonnes choses. Et il utilise cette comparaison, mais très très forte, en nous disant, mais demandez, insistez, parce que moi, je suis pour vous, je suis votre ami, je suis votre père. Donc à la base, je suis pour vous. Si ça tarde une fois, insiste. Ça tarde deux fois, insiste. Ça tarde trois fois, insiste. Sois impertinent. Fais comme celui qui, au milieu de la nuit, va oser déranger l'ami. L'ami ne va pas se lever à cause de l'amitié, mais parce qu'il en a marre. Fais comme lui. Sois audacieux. Ne lâche pas. Frappe, frappe, jusqu'à ce que le Père Céleste dise, « Waouh, je vois qu'il est déterminé. » En fait, il est déterminé pourquoi ? Écoutez-moi, pourquoi on est déterminé ? Parce qu'on est convaincu de son amour. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est un combat, parce que, mais est-ce qu'il t'aime vraiment? Le vrai combat. Ce qu'il dit, tu frappes, parce qu'il est ami. Donc il est ton ami. Si Dieu est ton ami, et tout le monde dit, oui, sa bonté durera toujours, il nous aime, il est un père, il prend soin de nous. Si tu le crois vraiment, tu vas pouvoir avoir l'audace de persévérer jusqu'à ce que... Et il dit, c'est même pas par amitié. C'est à cause de ton insistance, mais ton insistance est basée sur ta conviction profonde qu'il t'aime, qu'il te veut du bien et qu'il va exaucer. Du coup, c'est un combat. Il en faut de l'aplomb. Il en faut de l'audace. Il en faut ça prend du combat. Vous comprenez pourquoi on a parlé d'offensive de prière? Ça prend de la détermination. J'ai frappé une fois, il n'est pas venu. J'ai frappé deux fois, il n'a pas ouvert. J'ai cherché, j'ai demandé, là. Il ne s'est pas levé. Et puis au moment où il allait pour se lever, toi tu t'en vas et dis, oh, bah, ok, tu s'en vas, je vais rester au fond de mon lit. Je schématise. Là. La persévérance jusqu'à ce qu'il se lève. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il m'aime. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des personnes qui me disent encore, et franchement ça m'humilie, des fois, ça me brise le cœur. Rodrigue, j'ose pas te déranger parce que j'ai l'impression que tu es occupé. Tu es overbooké. Ah, et Joël, tu dis c'est vrai. Et moi, vous savez ce que je dis? Mais non! Non, ça brise mon cœur. Vous savez, c'est comme pour Dieu. Hein, j'ose pas te déranger, frapper, insister, parce que j'ai l'impression que tu es overbooké. Insiste. Moi, vous savez ce que je dis aux gens? Moi, je suis comme le Père. Alléluia. Je veux ressembler à Dieu en tout point. Alléluia! Greg, il a tout compris, hein? Moi, ça veut dire que si tu aimes une fois, je t'ai pas répondu, parce que ça arrive, on m'envoie un texto, j'ai pas répondu, tu as laissé un message, j'ai pas répondu. Deux fois, trois fois, au bout d'un moment, je dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment me rencontrer. Vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez là? Si vous me suivez, faites comme ceci là, comme ça. Ah, ouais. Dieu veut que nous insistions. Il nous le dit à l'avance. Jésus nous prévient que la prière va avoir besoin de combat, de persévérance, de détermination. Il dit, en plus le texte dit, continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Ça veut dire, waouh, il va falloir en arriver jusque là. Oui, pourquoi? Parce que tu sais que tu sais que tu sais que Dieu est bon. Tu sais que tu sais que tu sais que Dieu est bon. Et vous savez, on lâche parce qu'on se dit, là, ça fait trop, c'est pas possible, c'est difficile. On se met à douter de quoi? De son amour. C'est pourquoi il s'agit de relation. La prière, c'est la relation. Mais pour arriver à cette connexion, cette assurance, cette conviction, il faut de la persévérance. La Bible nous dit, c'est un texte qui me bénit profondément. Approchez-vous de Dieu avec assurance. Approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce. Celui qui est assis sur le trône, c'est un Père gracieux. Approchez-vous avec assurance, avec sans gêne. Ça ressemble quand même à du sans gêne. Moi, j'ai des enfants, ils sont tellement convaincus de mon amour pour eux qu'ils sont sans gêne. Non, non, je vous dis la vérité. Le 31, mon fils s'est pointé avec ma veste. J'ai dit, belle veste, ouais, j'ai trouvé ça dans le... Il est venu, regardez, il a pris, c'était pour lui, ça lui allait bien. Alors, moi, comme j'ai maigri, si on se rapproche un peu, ça peut passer. Sans gêne. Ma fille, là, ma fille bien-aimée, mon téléphone, c'est son téléphone. Je lui dis, écoute, c'est mon téléphone. Tu l'as perdu le tien, il va falloir que tu économises, tu vas avoir un téléphone. Mais là, c'est mon téléphone. Une fois, deux fois, trois fois. Et alors, on met des applications, on les enlève, on les utilise. Ils sont tellement aimés, écoutez-moi bien, tellement aimés, sans gêne. Je frappe, je demande, je sais qu'ils m'aiment. Et je vais vous dire, je les aime tellement que je crois que quand on sait prier, que la relation est là, on est assuré de l'amour, on sait faire craquer le cœur d'un père. C'est ça le refrain du cœur de Dieu. Mon amour pour toi durera toujours. Mon amour pour toi. Donc rentre en relation. Et tout ce qui va te dire le contraire, dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est là la lutte. C'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il est bon. Et ça me donne de l'assurance pour prier. Slide suivante, s'il te plaît. Du coup, la question, c'est quelle est notre perception du Père? Mais réellement, il se peut que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans que tu connais le Père. Et pour autant, ta grille, ta perception peut ne pas être bonne. Dans ce temps, dans cette saison d'offensive, ça prend de laisser le Seigneur sonder nos cœurs pour dire « Mais Seigneur, quelle est réellement ma perception de toi ?» Parce que ta perception détermine la manière dont tu vas prier. Tu vas continuer à demander, à chercher, à frapper. Ou alors, il est trop occupé par les grands dossiers de l'univers. Ah oui, il y a des choses à faire. Mais le mystère de l'amour de Dieu, c'est que pour chacun de nous personnellement, Dieu est disponible. Et comme le choix de Marie à ses pieds, celui qui fait cette part, il y a quelque chose de particulier qui va se passer dans cette saison de notre vie d'église. La prière est une relation au Père. Et on a tous une représentation. Ça peut être avec notre père physique, notre père biologique. Ça peut être avec une figure d'autorité. Ça peut être avec la personne la plus proche. Les limites de ces relations-là peuvent nous amener à avoir une mauvaise perception de Dieu. Et ce cœur-là, cette perception est au cœur de la prière, de l'offensive. Ça prend d'asseoir, de recevoir l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Si c'est pas posé, si c'est pas une assurance, si c'est pas une certitude, mais prends le temps de juste laisser le Seigneur venir comme évaluer, éprouver cette grille, renouveler cette grille, l'ajuster, la transformer pour que ça corresponde pleinement à l'image qu'il a, qu'il est, de ce qu'il est réellement en tant que personne. Alors, on va continuer et je vais arriver au cœur de ce que je voulais partager. Et le texte de référence, toujours la troisième parabole de Jésus sur la prière. Et je vais vous la lire. On est dans Luc 18. Alors, la première, je vais vous avoir raconté, c'est l'ami avec les pains. La deuxième, qui est dans Luc 18 au début, Jésus dit, il faut continuer de prier, pas se décourager. Parce qu'il savait que quand on allait commencer à prier, on allait se décourager. J'ai prié une fois, j'ai prié deux fois, ça n'a pas bougé, j'ai prié. Bon, ben, je me décourage. Il le savait. Et il nous donne une autre parabole, la parabole de la veuve avec le juge unique. Le juge unique, il ne craint pas Dieu, il n'aime personne. Donc pareil, hyperbole, Dieu le Père serait un juge dans la parabole, il le compare à cela. Inique, et il n'aime personne. Et la veuve est dans le besoin, et elle est dans son bon droit, elle lui dit, mais fais-moi justice, rends-moi,
exerce la justice, donc fais-moi que mes droits soient donc rencontrés. Et elle persévère, et elle persévère, et elle persévère. Pareil, exactement comme l'ami qui était allongé, la Bible dit, ce juge unique qui dit, je crains pas Dieu, je n'aime personne, mais j'en ai tellement marre, je vais accéder à sa demande. Donc, la prière sans persévérance, ça ne marche pas. Jésus nous prévient à l'avance. Mais deuxième parabole, juste après, il dit ceci. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, c'est-à-dire il est religieux. L'autre est un employé des impôts. Vous voyez, une autre hyperbole. Un publicain, un employé des impôts. Et à l'époque, les employés des impôts, c'était des tricheurs, des voleurs, des racketteurs. Enfin, ils vivaient sous le dos des gens. Le pharisien se met devant, et puis voici comment il prie dans son cœur. « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, ils sont injustes, ils sont adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je te donne le dixième de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière, il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Et on va lire ensemble le commentaire de Jésus. Mais avant de lire ensemble le commentaire de Jésus, ce que je veux dire, c'est que le religieux, il n'est pas en connexion avec Dieu. Il raconte ce qu'il vit. Vous savez, il se regarde vivre, il dit « Waouh, toi t'es un gars, tu jeûnes, tu pries, tu donnes de l'argent, tu t'occupes. » Il n'est plus en communion avec Dieu. C'est une hyperbole encore. Et Jésus prend l'autre, qui est un pécheur pratiquant. Un pécheur pratiquant. Et il arrive devant Dieu, la Bible nous dit, même pas qu'il lève les yeux, il dit « Seigneur, je sais que je suis un pécheur. » Puis il se frappe la poitrine. « Je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. » En fait, ouais, je reconnais. Je le reconnais. Jésus les compare et voici la conclusion de Jésus. Lui-même, il nous fait la conclusion. Jésus répondit, « C'est ce collecteur d'impôts et non l'autre, le pharisien, qui est rentré chez lui en étant en règle avec Dieu. » Si tu marches la tête un peu trop haute, tu vas finir par tomber magistralement. Mais si tu te contentes d'être simplement toi-même, tu seras élevé à un niveau qui dépasse ta petite personne. Jésus va privilégier dans la relation avec Dieu l'authenticité. Il va privilégier que tu reconnaisses simplement ce que tu es en train de vivre et qui tu es. Je suis un pécheur et je te demande pardon. Jésus dit, cette attitude d'humilité permet, cette attitude d'être toi-même permet à ce que Dieu te prenne là où tu es et te conduise plus haut. L'enjeu qu'on va avoir dans cette saison, c'est d'être authentique, d'être vrai devant Dieu et de le lui dire, je suis pécheur, je reconnais mes torts et je te permets de venir visiter ma personne, mes motivations, tout ce que je suis. Je mets la lumière dessus parce que je veux être vrai devant toi. Ce qui est de plus important dans la prière, avant d'aller quelque part, c'est de pouvoir dire, je rentre en relation avec Dieu, un Père bien aimant, bienveillant envers moi, et je reconnais d'où je pars et qui je suis devant Dieu. Et parce que je suis authentique, je suis moi-même, je lui partage mes vrais sentiments, je lui partage mes vraies préoccupations, que je les livre devant lui. Dieu dit, je te justifie, je te connecte avec moi, et je vais t'amener à un niveau supérieur. On ne peut pas gagner des combats, aller au niveau supérieur, sans l'étape de l'authenticité, de la vérité, d'accepter la lumière dans nos cœurs. Alors du coup, ça va avoir des incidences. Slide suivante, s'il te plaît. L'authenticité, la prière, le Père dit, il cherche, le Père dont on a parlé, il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Le texte là, c'est Jésus avec la Samaritaine. Je vous fais l'histoire courte, une dame qui ne connaît pas Dieu, Jésus veut la faire connecter avec le Père, exactement ce dont je parle ce matin. Et à un moment donné, elle lui pose la question sur l'adoration. Et il lui répond, vous adorez, vous les Samaritains, ce que vous ne connaissez pas. Il s'agit de connaître Dieu. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient,
Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, c'est les personnes, les prieurs, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui ont soif de Dieu, adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Le « en esprit » parce que c'est pas, ça ne se passe pas ailleurs qu'en esprit. Pour Dieu est une personne et il lui faut un esprit pour communier. C'est nos esprits qui adorent Dieu. Ce n'est pas nos âmes, c'est nos esprits. Et c'est en esprit et en même temps en vérité. Le « en vérité » parle d'authenticité. On ne peut pas partir au combat vers l'extérieur sans avoir gagné le courage d'être authentique avec Dieu, d'être vrai, de lui partager nos vrais sentiments. Je peux vous dire, dans cette saison, la religiosité est un ennemi. Et doucement, avant de dire amen, doucement. Écoutez bien ceci. Nous sommes très souvent des pharisiens. Nous sommes très souvent, vous savez, on n'est pas connecté avec Dieu, on n'est pas en authenticité, en vérité. Nous sommes en train de réciter notre catéchisme, notre credo, mais la connexion de cœur n'y est pas. Jésus dit, écoutez, s'il n'y a pas de connexion de cœur, s'il n'y a pas d'authenticité, oublie. Tu vas repartir chez toi de la même manière, tu vas sortir de la prière de la même manière que tu y es entré. Par contre, s'il y a une authenticité, je vais me connecter à toi, je vais t'amener à un niveau supérieur. Sois toi-même et dis la vérité à ton Dieu. La suite, l'exemple de David. Je vous disais tout à l'heure, et je vais lire un témoignage, mais l'exemple de David est très, très, très inspirant. David, homme selon le cœur de Dieu, l'adorateur par excellence, le prieur par excellence. On va lire des textes ce matin d'authenticité. Je vais partager deux choses avant qu'on prie. La manière dont nous réagissons lorsque nous péchons révèle ce que nous connaissons de Dieu et cette grille doit être transformée, cette perception doit être transformée à la réalité que Dieu est un Père. Deux, l'épreuve. Donc là, David, il pêche. On a un exemple magistral de péché. Quand je vous dis magistral, on le connaît. David, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui conçoit le meurtre, qui consomme le meurtre, qui conçoit l'adultère, qui consomme l'adultère, et il a gravement péché. Là, au moins, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas photo, si vous voulez. Il n'y a pas photo. C'est clair, il a péché. Et quand il a péché, quelle est sa réaction pour se reconnecter à Dieu? Et dans nos vies, il se trouve qu'on pêche. On est des Est-ce que, ici, je ne dirais pas des pêcheurs pratiquants. Tout à l'heure, le collecteur d'impôts, c'était un pêcheur pratiquant. On n'est peut-être pas des pêcheurs pratiquants dans le sens où on aime faire ça. Mais le Notre Père nous dit, tu dois prier, pardonne-nous nos offenses. Ça veut bien dire que nous péchons. Et ma question, c'est comment tu réagis quand tu pêches? Qu'est-ce qui se passe? Quel sentiment monte en toi? Culpabilité, tristesse. Plus fort, la honte. Je n'ai pas entendu. Indignité, l'amertume, la peur aussi peut-être. Alors écoutez bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans l'offensive de prière, on veut connecter avec Dieu, combattre contre nous-mêmes les mauvaises pensées, pour remporter des victoires et voir son royaume se manifester. Ça prend que lorsque nous péchons, ce ne soit pas un moyen pour le diable de nous déconnecter de Dieu. Si nous sommes déconnectés parce que nous avons péché et que nous ne savons pas réagir de la bonne manière, de revenir vers lui, qu'on se tient éloigné, il a gagné. Le combat, c'est de réussir à confronter le mensonge et nous reconnecter à Dieu, qui est bon et qui nous recevra toujours dans sa grâce. Tu as péché? Quelle réaction tu as? Qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de toi? Si ce que tu penses de ce que Dieu pense de toi n'est pas juste, tu vas rester déconnecté. Voyons l'exemple de David. David, il a péché gravement. Et il dit, écoute, tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. C'est-à-dire que lui vient, il a péché et il court vers Dieu pour lui faire connaître son péché. Seigneur, j'ai péché, je viens vers toi parce que tu vas pardonner. Et il dit que tout homme pieux, quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui cherche à faire une offensive de prière pour remporter des victoires pour lui, pour sa maison, pour son travail, pour là où Dieu l'a placé, pour cette ville, pour le faire, cours vers Dieu quand tu as péché. Fais connaître ton péché. Partage ton péché. Seigneur, là, je suis vraiment désolé, je viens vers toi. Je veux te parler de mon péché. Parlons-en ensemble. Seigneur, c'est dur, c'est difficile. Et il dit, David dit, celui qui veut chercher Dieu doit prier ainsi. La prière commence par reconnaître, j'ai péché. J'ai loupé le but. Ça ne joue pas. Je me laisse pénétrer par ta lumière et je te dis la réalité de ce que je ressens. Eh bien, c'est dur, j'ai peur, j'ai honte. Je suis dans la colère, je suis dans l'amertume, je suis dans la culpabilité, dans l'indignité. Je viens te le partager. Et ce partage permet la connexion de nouveau avec Dieu. Parce que quand on se repent, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Quand on se repent, quand on vit ça régulièrement. Et vous savez, laissez pénétrer la lumière en vous, vous allez les voir les péchés. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et me disent, oh mais moi finalement, en fait c'est quand la dernière fois que j'ai demandé pardon à Dieu? C'est quand la dernière fois que j'ai demandé pardon à Dieu? Parce que c'est normal, je lui en parle comme à un ami. Je lui en parle comme à mon épouse. Et quand je sens que je l'ai offensé, vous savez, quand vous avez offensé votre conjoint, peut-être pendant un temps, tu ne vas pas percevoir qu'il y a un problème. Mais au moment où tu veux de l'intimité, elle dit, mais doucement. Au fait, tu n'as pas oublié, doucement, il faut qu'on parle. Vous me suivez là? Parce qu'à des moments, on veut, surtout les hommes, or, mais ça peut arriver aux femmes aussi, je crois, hein, dans la relation, on ne se rend pas compte qu'on a offensé l'autre et l'autre n'a pas eu l'occasion de nous en parler sereinement. Alors on trace notre route, puis à un moment donné, on veut rentrer en connexion. Un moment d'intimité. Puis l'autre dit, hé, doucement, on a des choses à régler. Vous me suivez là? Et on parle. Et dans ces moments-là, il s'agit, oh là là, je ne l'ai pas vu, et donc je me reconnecte, pas dans le but d'avoir l'intimité, vous me suivez là, pour réconcilier la relation, qu'il y ait une reconnexion avant de pouvoir aller plus loin dans l'intimité, sans cette reconnexion. Il y a même des épouses qui n'osent pas, ou des époux qui n'osent pas régler les vraies choses et qui laissent s'installer une intimité, mais qui n'est pas réelle parce qu'elle n'est pas profonde, parce qu'il n'y a pas eu de connexion. Vous m'avez suivi là? Ça veut dire, dans toute relation, comme la relation à Dieu, ça prend une reconnexion de cœur où je laisse mon cœur être lavé et être repris. Et c'est normal, je t'ai fait du mal, ok. Mais écoute, je te demande pardon et je vais laisser la lumière transformer mon cœur pour réussir à me reconnecter correctement. Que l'amour soit là, que l'amour de l'autre soit reçu, que l'amour que je donne et que je reçois soit là. Ainsi l'intimité peut se vivre. Le but de cela, c'est de nous connecter à Dieu pour qu'il y ait une réelle intimité. Quand il y a une réelle intimité, on peut aller quelque part ensemble. Tant qu'il n'y a pas cette intimité. Et ça prend notre réaction à notre péché. Deuxièmement, donc, authenticité, vérité. Je te dis réellement ce que je ressens, je demande pardon et je me laisse transformer. Dernière partie, comment on réagit quand on est éprouvé? Et là, je vais vous lire, je vais commenter David et puis je vais lire le témoignage. Tout le monde est éprouvé et dans la relation de Dieu, avec Dieu, on sera éprouvé. Quand on attend, la période d'attente entre, on est en train de prier, on est en train de frapper, on est en train de demander, on est en train de chercher et l'exaucement, il y a toute une période où c'est une épreuve de notre foi. C'est une épreuve, on est dans l'attente, l'exaucement n'est pas là, on nous ouvre pas la porte et donc on attend. Et là, on est éprouvé. Ça veut dire, mais pourquoi Dieu tarde-t-il? Et dans la parole, vraiment, David est extraordinaire. Les psaumes sont extraordinaires parce qu'il arrive à dire à Dieu des choses, c'est choquant. Il dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as oublié? Il prie, il frappe, il demande, il lâche pas. Hein? David, il persévère. Mais il dit, mais Seigneur, tu m'as oublié, je suis là, je suis en train d'attendre, tu m'as dit de persévérer. Je sais que tu es bon, mais là, j'ai un sentiment profond d'oubli, d'abandon. Et dans ma relation à Dieu, avant de préparer cette série sur l'offensive de prière, j'ai été conduit à reconnaître que dans cette attente, régulièrement, j'ai été déçu de Dieu. A-t-on le droit d'être déçu de Dieu? A-t-on le droit de dire à Dieu que là, dans l'attente, je me sens oublié, abandonné? Vous savez, on connaît notre catéchisme, Dieu ne peut pas nous... Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je suis ton Dieu. On connaît ça, qu'est-ce que vous connaissez? Mais dans l'attente, je peux ressentir, je peux avoir le sentiment que Dieu m'a oublié. Je peux avoir le ressenti que Dieu est loin. Je peux avoir le ressenti que, en fait, je suis en train de crier, je parle à un mur, il n'y a rien que ça dépasse pas le plafond. Je peux avoir des tas de sentiments. Et vous savez, la clé, c'est de reconnaître ce qu'on est en train de vivre, d'être authentique, de dire, Seigneur, comme David, pourquoi m'as-tu oublié? Jusqu'à quand je vais attendre? C'est long, c'est difficile, c'est douloureux, jusqu'à quand? Et David dit à Dieu, jusqu'à quand? Et il en fait un chant, jusqu'à quand? M'oublieras-tu jusqu'à quand? Imaginez, pour chant de louange, il y a mieux que ça quand même. Il donne ça au chef des chantres. Débrouillez-vous avec ça. Jusqu'à quand m'oublieras-tu?
Jusqu'à quand t'oublieras-tu?
Le ton, la mélodie, ça doit être en mineur, à mon avis.
Jusqu'à quand?
Dire à Dieu, jusqu'à quand? Et je vais vous dire, si vous venez dans les espaces de prière, à des moments, moi, ça me concernait, j'aime dire à Dieu dans les larmes, jusqu'à quand? Je me sens... C'est dur, Seigneur, ce qu'on est en train de vivre, jusqu'à quand? Et je le prie pour moi, mais comme pour d'autres. Seigneur, on attend l'exaucement, jusqu'à quand? On a vécu, dans nos vies, dans notre vie d'église, deux décès qui ont brisé mon cœur. Christian Danebé, et puis Chantal Loja. Des personnes pour qui on a prié, pour qui on a mené des combats. Et puis, j'ai dû dire à Dieu, Seigneur, c'est douloureux. Perdre ces personnes, perdre ces batailles, les voir partir, c'est douloureux. Jusqu'à quand? Pourquoi, Seigneur? Et dire à Dieu, honnêtement, je ne comprends pas, c'est douloureux, je me sens abandonné, c'est dur, on prie, mais ça ne vient pas. Dieu préfère qu'on soit honnête en le lui disant qu'en faisant semblant, en récitant notre catéchisme, alors que notre cœur est déconnecté. Vous me suivez là? L'authenticité de dire, jusqu'à quand? David, il ose dire, jusqu'à quand? Il dit, mets-moi les psaumes là. Psaume 13, 2. Seigneur, tu continues à m'oublier? Mais jusqu'à quand? Tu me caches ton visage, mais jusqu'à quand? Et dans d'autres textes, le psaume 22, c'est David qui écrit à Dieu, prophétiquement, que Jésus va reprendre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes en train de crier, on a un sentiment d'abandon. Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et il crie, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Authenticité de dire, Seigneur, ce qui est là, c'est douloureux. Je te l'exprime, et Jésus le reprend. On pourrait dire, bon, David, il n'était pas dans un bon jour. Mais c'est prophétique. Jésus sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri. Mais on pourrait dire à Jésus, mais non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Comment Dieu peut-il t'abandonner? Ce n'est pas possible. Et puis lui reciter le catéchisme. Souviens-toi, confesse avec moi. L'Éternel ne t'abandonnera point. Confesse avec moi. Non, il est en train de ressentir l'abandon. Il dit à Dieu l'abandon. Si tu ne te connectes pas avec Dieu avec authenticité de ce que tu ressens, que tu ne lui exprimes pas, ta prière ne dépassera pas le plafond. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas reconnecté avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi là? Donc être authentique de dire, oui, Seigneur, c'est dur, j'ai prié. Vous savez, j'ai prié sur ceci, j'ai prié sur ceci, j'étais convaincu pour autant. Puis ce n'est pas venu, je ne comprends pas pourquoi. Je te le partage. Et Dieu dit, quand ton cœur brisé comme ça vient vers moi et se reconnecte avec moi, et que tu es toi-même, je vais t'amener à un niveau supérieur. Cet été, en août, je suis allé visiter Isabelle Tourette. Et puis, pendant toute l'année, on a prié régulièrement pour qu'elle soit guérie de sa maladie. Isabelle n'est pas là. Je l'ai contactée, elle m'a envoyé un mail. Elle devait témoigner ce matin. Et puis, elle n'a pas eu la force parce qu'elle est encore dans cette maladie. Je la visite. Puis quand je la visite, on vit un moment où j'ai voulu être vrai avec elle et elle envers moi, c'est pas qu'on l'était pas, c'est que juste elle m'a dit, Rodrigue, ce que j'ai vécu cet été est tellement difficile que je vis un moment de découragement, et je vis un moment de déception envers Dieu. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, tu as le droit d'être déçu. Je n'ai pas d'autre réponse à te donner. Je n'ai pas un verset juste pour te stimuler, pour te dire, mais non, mais Dieu est bon, ne sois pas déçu. Non, 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 accueille cette déception et dis-la à Dieu. Disons-la à Dieu ensemble. Et je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Je lui ai posé 3 questions. Quelles sont les épreuves que tu as traversées? Isabelle répond, je souffre depuis de nombreuses années de 2 pathologies. Une maladie chronique des intestins et une maladie neurologique, tremblement essentiel. Elles sont toutes deux douloureuses et handicapantes. L'été dernier, j'ai fait une dépression. La deuxième question, c'est comment as-tu réagi à ces épreuves? Je me suis d'abord isolé, j'ai pleuré, crié, prié comme jamais auparavant. Rien ne m'apaisait. J'ai décidé de lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Pas de faux semblants, pas de paroles en vain, pas de phrases toutes faites. Si je ne peux pas dire à mon Dieu ce que je ressens vraiment, alors à qui le dirai-je? Seigneur, je t'aime, tu es mon Père, mon meilleur ami, j'ai confiance en toi et je crois en toi, mais je souffre depuis si longtemps. Je me sens seul, épuisé, découragé, triste, pire, déçu. Où es-tu? Comment dire à Dieu que j'étais déçu et pourtant c'est ce que je ressentais? Puis j'ai pensé à toutes les fois où j'ai dû et je dois encore le décevoir. Je lui ai demandé pardon, il m'a consolé. J'ai aussi demandé de l'aide, un soutien dans la prière. Une vraie petite armée s'est levée. Merci. Question 3. Où en es-tu aujourd'hui et quelle perspective pour l'avenir? Aujourd'hui, j'ai la profonde conviction, malgré les difficultés, qu'il est plus présent, il est plus présent que jamais. Je me sens plus libre. Au travers de ces épreuves, j'ai appris un peu plus à m'aimer tel qu'il m'a créé, à l'écouter, à lui faire confiance. J'aimais déjà beaucoup la vie et je l'aime encore plus aujourd'hui grâce à lui. Je sais qu'il a de beaux projets pour moi et j'ai hâte de les vivre avec lui. Quels que soient vos combats, ne baissez pas les bras. Est-ce qu'on a le droit de dire à Dieu que c'est difficile? Moi, je dis, il s'agit de commencer par cela. On a tous des rendez-vous manqués avec Dieu. On a tous des sujets sans exaucement. Il ne s'agit pas de passer à autre chose sans revenir là et dire, Seigneur, je te cherche. Où es-tu? Vous savez, ce fameux Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des tas de personnes dont je connais l'histoire ici qui traversent des situations douloureuses. Et dans ce temps d'offensive, on va se rejoindre dans nos situations douloureuses et reconnecter à Dieu en étant authentique, en disant, Seigneur, si c'est le péché qui m'a éloigné de toi, je viens te confesser mon péché. Si c'est l'épreuve, et que dans cette épreuve, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je viens te dire, comme David, comme Isabelle, ne tarde pas, c'est douloureux, je suis en souffrance et je me réconcilie avec toi. Il y a des rendez-vous ce matin. Et c'est ça l'objet de mon appel. Et pour nous donner vraiment du courage à dire, David est là dans cette inspiration. Il n'a pas peur que Dieu le rejette. Dieu l'accueille toujours. C'est un Dieu de grâce. Il vient à la lumière. Et dans l'épreuve, il dit à Dieu cette souffrance, cette douleur. Et il accepte que toutes les émotions négatives, comme la colère, comme la tristesse, comme la déception, puisse être exprimé à Dieu. C'est un état ou un sentiment qui induit une insatisfaction ou un échec. Insatisfaction ou échec. Je viens devant Dieu. Tu me mets la dernière slide, s'il te plaît? Dieu n'a pas fait ce qu'il était supposé faire. Est-il injuste? Pourquoi ne s'explique-t-il pas? Dieu est-il silencieux? Pourquoi n'intervient-il pas? Dieu se cache-t-il? Pourquoi ne se révèle-t-il pas? La déception est un état ou un sentiment qui induit et puis qui dit « je suis insatisfait ». On a chanté « nous avons soif de plus ». Il y a plus. L'état dans lequel nous sommes, ce n'est pas l'état, ce n'est pas ce qui est censé être, ce n'est pas la base de ta promesse. Il y a une frustration qui se traduit par la prière. Comme Anne est venue devant Dieu, elle n'avait pas d'enfant et ce n'était pas normal. Ça avait produit une grande souffrance dedans d'elle. Elle vient devant Dieu, elle dit à Dieu, c'est dur. Elle répand son âme et elle crie à Dieu. Et Dieu entend sur la base d'un cœur passionné et honnête devant lui. Il s'agit de le reconnaître, de le partager à Dieu, de recevoir son amour et enfin vivre ce que David a vécu. Dans le psaume 13, le dernier verset, il dit « Moi, je suis sûr de ton amour. » Alors qu'il commence en disant « Tu m'as oublié, tu me caches ton visage. » Et tous les 5 premiers versets, c'est la même chose. Il finit en disant « Je suis sûr de ton amour. Mon cœur est joyeux parce que tu me sauves. Je veux chanter le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. » Je suis sûr de ton amour. Dieu veut nous rencontrer dans les échecs, les insatisfactions, les frustrations, les pourquoi. Nous avons le droit de dire pourquoi. Et il veut reconnecter avec nous. C'est un choix de sortir du péché, de mettre la lumière dessus. C'est un choix ce matin de sortir de cette épreuve et d'exprimer à Dieu ce qu'on ressent réellement. Le Seigneur veut nous rencontrer. Accueillons-le. Personnellement, accueillons-le. David était sûr de son amour. Partageons à Dieu nos sentiments profonds. Amenons-lui la déception, amenons-lui le sentiment d'échec, d'indignité, amenons-lui ces choses. Reconnectons-nous avec lui. Je vous invite à vous lever. On va finir le culte avec Toine et la confession de notre Père.
Alors je vous propose comme une réponse à ce message et au Père qui nous invite de prier ensemble ce Notre Père et de le faire pas du tout d'une manière religieuse comme on peut le faire, mais vraiment en y mettant tout notre cœur. Et je vous propose de le faire comme aussi une prise de position par rapport à cette série, c'est-à-dire en communauté. Et donc, pour signifier cela, de se tenir les mains, pour dire vraiment, nous, on se détermine et on vient vers notre Père. Et rien ne nous empêchera de venir vers notre Père et d'être vrai avec lui. Rien. Vers un Père qui nous aime et à qui on peut tout dire, même le pire. Parce que Jésus-Christ est venu pour cela, pour qu'on puisse lui dire même le pire de nos vies, même ce que des êtres humains ne peuvent pas entendre, Dieu le Père peut l'entendre à cause de Christ. il nous reçoit, il nous aime à cause de Jésus-Christ. Alors je vous propose de confesser le Notre Père, tous ensemble dans cette prise de position spirituelle. Et ensuite, on aura un temps d'appel pour tous ceux qui ont besoin de recevoir la prière par rapport à ce que Rodrigue a partagé. Je vais dire les phrases et puis je vous invite à les répéter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.